Je vous souhaite également la bienvenue. Avant de passer à table, donc je voudrais dire quelques mots sur la situation politique. Je crois que vous savez tous que 8 anciens salariés de Goodyear à Amiens viennent d'être condamnés en première instance à 9 mois de prison ferme pour avoir séquestré 2 cadres il y a 2 ans. Eh bien, Sarkozy en a rencontré certains le week-end dernier, dans le coin d'Amiens, justement, et il leur a laissé entendre que s'il avait été au pouvoir, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Que le procureur aurait retiré sa plainte et qu'il n'y aurait donc pas de procès et pas de condamnation à la prison ferme. Alors, cette anecdote, eh bien, elle montre deux choses. La première, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas changé. C'est un opportuniste et il ment comme un arracheur de dents. Et puis la deuxième chose que cela montre, c'est que la politique de Hollande, elle est vraiment de la pire espèce. Cette condamnation à la prison ferme, c'est l'aboutissement de la politique anti-ouvrière du gouvernement. Et elle est dans la logique d'un gouvernement qui souhaite des travailleurs soumis, dociles, d'un gouvernement qui craint la contestation. Et oui, il y a de quoi contester. Pendant sa campagne, Hollande n'avait pas fait beaucoup de promesses aux travailleurs. Il les a toutes trahies. Il s'était engagé auprès des ouvriers de Goodyear, justement, auprès de ceux d'ArcelorMittal, à faire passer une loi qui devait permettre à des sites comme les leurs de ne pas fermer. Ils ont fermé. Mais en mettant sur la paille des milliers de salariés, d'ouvriers, mais aussi des milliers de sous-traitants. Hollande avait promis, bien sûr, de faire de la lutte contre le chômage sa priorité. Depuis son élection, si on prend toutes les catégories de chômeurs confondues, il y a plus de 1 million de chômeurs dans ce pays. Il avait promis encore la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Cela n'a concerné qu'une petite minorité. Et pour tous les autres, il a durci les conditions d'obtention de leur pension. Et puis il avait promis la justice sociale et il a livré des familles entières à la précarité en refusant de relever le SMIC, en aidant le patronat à généraliser les CDD et autres missions temporaires, en coupant aussi dans les allocations et dans les droits sociaux. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour servir les intérêts du patronat, pour lui permettre de restaurer ses marges, sa compétitivité, ses profits, sur le dos des travailleurs. Cette semaine, la fonction publique l'a rappelé, les salaires des aides-soignantes, des enseignants, des personnels municipaux sont bloqués depuis 2010. Mais quelle grande entreprise, quelle banque a accepté la stagnation de ses bénéfices depuis 2010 ? Quel grand actionnaire a vu ses dividendes bloqués depuis 2010 ? Aucun. Non, ça, le gouvernement y a veillé. Il y a veillé en arrosant justement ce patronat de milliards d'aides publiques. Alors après Sarkozy, on peut dire que Hollande fait bien le boulot pour le patronat. Et ce n'est pas fini. Alors, vous avez vu que le patronat se dit gêné par les 35 heures, par les heures supplémentaires. Il se plaint de payer les licenciements trop chers. Il se plaint aussi du blocage de certains syndicats, eh bien le gouvernement est en train de s'occuper de tout ça en essayant de démolir petit à petit le code du travail. Et je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement Jean-Marie Le Guen expliquant que décidément il y avait trop de syndicats en France. Alors c'est clair, sur le plan économique et social, il n'y a plus aucune différence entre la gauche et la droite. Mais jusqu'à présent, les dirigeants du PS avaient tenu à se distinguer sur le plan sociétal, comme ils disent, en mettant en avant un certain nombre de principes. Et faut-il rappeler que lors de sa campagne de 2012, Hollande avait promis le droit de vote aux élections locales pour les étrangers ? Eh bien aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça est bel et bien enterré. État d'urgence prolongé, déchéance de la nationalité pour les binationaux. Le PS est allé chercher à droite et même à l'extrême droite La démagogie la plus crasse. Hollande et Valls officialisent, comme ça, leur rupture avec leur héritage socialiste. Ils revendiquent leur droitisation. Et il ne faut pas être surpris de cette évolution. En fait, c'est une orientation qui est discutée depuis déjà bien longtemps au sein du Parti socialiste. En 2009, Valls plaidait déjà pour, je le cite, « changer de programme et changer de nom » parce que le mot « socialiste » ne veut plus rien dire. C'était Valls qui le disait. En 2014, il demandait à nouveau, je le cite encore, « d'en finir avec la gauche passéiste qui s'attache à un passé révolu et nostalgique ». Alors aujourd'hui, eh bien, les circonstances se prêtent à ce virage politique souhaité par Valls et par Hollande. Avec le terrorisme, avec la peur, les réflexes de rejet et de repli sur soi, avec l'ascension électorale du Front National et la progression des idées réactionnaires, oui, le vent souffle à droite. Cette droitisation, elle est finalement pour Hollande, pour Valls, mais aussi pour le Parti Socialiste, une nécessité. C'est une nécessité parce qu'en menant une politique aussi ouvertement pro-patronale, ils ont sapé les bases de leur propre électorat, de leur électorat le plus populaire. Et pour se refaire une clientèle électorale, eh bien, il faut qu'ils s'adressent à des couches petites bourgeoises, centristes, voire même à un électorat de droite. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas à supplier les dirigeants du PS de changer de politique. Ils n'en changeront pas. Alors oui, la gauche, dont le PS constituait le pivot depuis près de 40 ans, est en train de mourir de sa belle mort. Mais il n'y a pas à s'en émouvoir et à en être démoralisé. En fait, c'est une clarification politique. Et cela fait, parce que cela fait bien longtemps que le PS ne représente plus les intérêts des travailleurs. Raisonner en termes de gauche et de droite, c'est se leurrer. Les frontières politiques ne passent pas entre la gauche et la droite. Cette division ne recouvre plus qu'un jeu entre des écuries de politiciens qui sont en concurrence pour la mangeoire, mais en fait qui sont profondément semblables. Les véritables frontières politiques sont déterminées par les intérêts de classe, par les intérêts des travailleurs, des exploités d'un côté et de l'autre, par les intérêts du grand patronat, de cette poignée de capitalistes qui décident seuls de toute l'économie et qui traitent les travailleurs comme des pions. La politique et la vie des travailleurs, des classes populaires, changeront si le rapport de force entre les classes sociales se modifie, si les travailleurs se lèvent à nouveau et mènent le combat pour leurs intérêts. Et notre raison d'être à nous, eh bien c'est de diffuser cette conscience-là parmi les travailleurs. L'écœurement et la désorientation des classes populaires fait aujourd'hui le lit du Front National. Et c'est grave. Pour l'instant, Marine Le Pen veut faire du FN un grand parti de droite et elle joue le jeu des institutions. Elle a mis à l'écart les figures les plus sulfureuses, à commencer par son père. Et puis sa démagogie ressemble par bien des aspects à celle de Sarkozy. Alors on pourrait se dire finalement le parti de Le Pen est devenu un parti comme les autres. Il est en effet, comme les autres, un défenseur de l'ordre bourgeois. Il défend l'exploitation et la propriété capitaliste, comme les autres. Mais d'ores et déjà, le Front National pèse sur la société dans un sens pourri, en exacerbant les idées réactionnaires, les idées racistes, sans qu'il y ait de violence organisée à grande échelle. Il y a déjà de la violence individuelle, des propos, des intimidations, des actes racistes et islamophobes. En renforçant les imbéciles haineux et par la crainte que le Front National inspire dans le milieu immigré, il pousse au réflexe de repliement, au communautarisme. Et tout ça se conjugue déjà pour morceler encore plus la classe ouvrière et pour disloquer sa conscience de classe. Alors oui, il faut combattre le FN, encore et toujours. Mais en faisant progresser la conscience de faire partie de la même classe ouvrière, aux intérêts fondamentalement identiques, par-delà les origines et la nationalité, en mettant à débarrasser la société des inégalités, des rapports d'exploitation et des lois du profit. Les dernières élections régionales l'ont montré. L'emprise croissante du FN dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une région à tradition ouvrière et socialiste, s'explique par la faillite politique de la gauche. Parce que ce sont bien le PS et le PC qui recueillaient il y a peu les voix de cet électorat. Ils n'en conservent aujourd'hui qu'une petite partie. Parmi leurs ex-électeurs, certains, écœurés, se sont réfugiés dans l'abstention. Et beaucoup trop, ont basculé dans le vote FN. Et cette évolution, elle se mesure aussi ici. Ici, dans le 93, qu'on a appelé pendant longtemps la banlieue rouge, parce que les mairies y étaient communistes depuis des décennies, depuis 1934 pour Bobigny. Regardez où nous en sommes. La droite dirige maintenant Aulnay, le Blanc-Ménil, Drancy, Bobigny, Villepinte. L'abstention a explosé. Et puis aussi, on voit la poussée du Front National. Ces électeurs du Front National, ils ne sont pas devenus subitement racistes et encore moins fascistes. Nous en connaissons tous. Nous savons que la plupart l'ont fait d'abord et avant tout pour rejeter la politique du Parti Socialiste, pour se venger des partis gouvernementaux. Tout ça parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis, et oui, ils ont été trahis. Pendant des décennies, ces électeurs sont restés fidèles au Parti Socialiste et au Parti Communiste. Et ils en ont pourtant avalé des couleuvres, sous Mitterrand déjà, qui avait instauré la rigueur, et qui avait fini par encenser la bourse sous Jospin et ses fameuses ouvertures de capital qui n'étaient rien d'autre que des privatisations et qui ont été orchestrées par des ministres communistes. Ce sont les militants ouvriers, les militants syndicalistes ou associatifs qui ont été les plus désarçonnés par ces reniements et par les capitulations du PS et du PC. Eux qui avaient convaincu leurs camarades de travail de voter pour la gauche se sont retrouvés maintes et maintes fois à justifier des mesures qu'ils avaient toujours combattues, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par se sentir trahis, par abandonner l'activité militante, et pire encore, par perdre confiance dans les idées qui les avaient toujours animées. C'est cette faillite, ce recul du mouvement ouvrier qui ouvre aujourd'hui un boulevard à la droite et au FN. Peut-être que certains ici se disent que, quand même, il faut être sacrément déboussolé et inconscient pour se mettre à voter pour le FN. Eh bien, oui. Mais encore une fois, qui a déboussolé et brouillé les consciences de ces hommes et de ces femmes si ce ne sont les principaux partis de gauche? C'est le rôle d'un parti ouvrier, d'une direction et des militants de permettre aux exploités de comprendre la situation. C'est le devoir d'un parti ouvrier de dire en quoi ceux qui prétendent gouverner sans remettre en cause le pouvoir du capital, le pouvoir de la bourgeoisie, des plus riches, se vouent à servir ce système. C'est du devoir d'un parti ouvrier de faire découvrir aux travailleurs qui sont leurs amis, leurs faux amis et leurs vrais ennemis. Le Parti Socialiste a joué le rôle inverse en trompant les travailleurs des décennies durant. Mais le Parti communiste n'a pas plus joué ce rôle. Le PC s'est construit au lendemain de la Première Guerre mondiale pour relever le drapeau de la Révolution qui avait été piétiné par le Parti socialiste. Dans ses premières années, en regroupant les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients qui avaient été enthousiasmés par la Révolution russe, le PC a contribué à écrire les pages les plus glorieuses du mouvement ouvrier. Mais très vite tombé sous la coupe stalinienne, il a fini, lui aussi, par s'intégrer au système. Lui aussi s'est mis à entonner que les frontières politiques passaient entre la gauche et la droite, que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. Pendant des décennies, le Parti communiste a été complice de l'imposture du Parti socialiste. Le mouvement ouvrier s'était développé sur l'idée que le monde était d'abord divisé en exploiteurs et en exploités, que les travailleurs du monde entier étaient frères et unis dans le combat contre contre le patronat. Il s'était toujours battu pour diffuser une conscience internationaliste et pour dénoncer le patriotisme de la bourgeoisie qui cache toujours des visées impérialistes. C'était ce que signifiait l'international et le drapeau rouge. Eh bien, non seulement le Parti communiste n'a pas combattu dans ce sens, mais il a réintroduit le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, c'est-à-dire les symboles des politiciens bourgeois dans le mouvement ouvrier. Il a présenté le nationalisme, le produire français et les frontières comme une façon de se protéger de la concurrence, alors que les travailleurs avaient à se protéger des capitalistes qui sont ici et qui sont ceux qui les exploitent. Si bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen peut citer Georges Marché. Alors tout cela, toute cette politique, elle a préparé le terrain au Front National. Cela a faussé les repères politiques et contribué à la désorientation de la classe ouvrière que l'on constate aujourd'hui. Alors le problème, ce n'est pas de ressasser le passé. Il faut que les militants qui n'ont pas renoncé et qui veulent aujourd'hui reconstruire comprennent à quel moment le mouvement ouvrier a dévié. Ils doivent comprendre comment la bourgeoisie s'est servie des partis que les travailleurs s'étaient construits et comment elle les a retournés contre eux. C'est nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. La situation actuelle, la poussée réactionnaire que nous connaissons, le FN, sont les fruits du nationalisme propagé par les organisations ouvrières contre la conscience de classe. Ce sont les fruits pourris du réformisme et de l'électoralisme. Il faut rompre avec toutes ces perversions des idées socialistes et communistes. Et il faut reconstruire le mouvement ouvrier sur des bases de lutte de classe et révolutionnaire. Le point fondamental de l'organisation de notre société, c'est que le pouvoir économique est entre les mains de ceux qui possèdent le capital, des financiers, de la classe capitaliste. Tant qu'ils détiennent les cordons de la bourse, même les dirigeants les mieux intentionnés vis-à-vis des travailleurs, comme le fut Tsipras en Grèce avec son organisation Syriza, eh bien tous ces dirigeants, ils seront condamnés à se coucher sous le diktat de cette minorité qui domine. C'est avec la perspective d'enlever le pouvoir des mains de cette minorité bourgeoise que les travailleurs ont remporté leur plus belle victoire. La Commune de Paris, la Révolution russe, eh bien c'est sur ces bases, sur les bases du programme de Marx, de Lénine et de Trotsky, que demain, ils en remporteront d'autres. Il faut donc reconstruire, et il y a un tas de choses à faire. L'évolution à droite de toute la vie politique est la conséquence de décennies de recul du mouvement ouvrier. Et elle provient du recul de la conscience de classe. Alors il faut contribuer à ce qu'elle renaisse dans la classe ouvrière. Et cela passe par la renaissance d'un parti qui, sur tous les événements, prenne position du point de vue des intérêts des travailleurs, d'un point de vue de classe. Toutes ces forces réactionnaires, le FN, mais aussi ces réseaux terroristes qui exercent une attirance morbide sur une fraction de la jeunesse de ce pays, sans avenir, sans espoir, sans boussole, se déploient d'autant plus facilement que le mouvement ouvrier est faible, sans politique propre et sans perspective. Alors il faut affirmer nos valeurs et nos perspectives pour la société. Contre les divisions semées dans la classe ouvrière ici, il faut affirmer la conscience de nos intérêts communs par-dessus les différences. Les différences de statut, de métier, par-delà la diversité de nos origines, de nos religions, ou voilà, du fait de ne pas croire. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les athées, ça existe, nous en sommes. On nous rabâche tous les jours que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité, de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie, et un aspect, l'aspect même le plus important de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Et c'est cette condition-là, cette condition de travailleur, cette condition d'exploité qui nous unit au-delà de nos différences. Alors, il faut serrer les rangs et il faut rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs et des exploités. Contre la guerre et les bombardements sur la Syrie et l'Irak, il faut affirmer que le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. Le chaos qui règne dans ces régions, Daesh, qui exerce une des dictatures les plus féroces, sont le produit des rivalités, du pillage et de l'oppression des grandes puissances, des Américains, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Qatar, de la Russie, sans oublier la France. Alors, quel nouveau monstre sortira des calculs qui se trament aujourd'hui autour de la Syrie et de l'Irak? Alors il faut affirmer notre opposition à la politique impérialiste de la France et aux interventions guerrières de la France. Contre le sort inhumain qui est fait aux migrants, il faut affirmer pour tous les exploités la liberté de circulation et d'installation. Les migrants qui parviennent en Europe sont des survivants. Ils ont réussi à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et il faut encore qu'ils se heurtent aux murs et aux barbelés, qu'ils continuent leur route clandestinement en prenant le risque de mourir asphyxiés, électrocutés ou d'épuisement, en leur assurant la liberté de circulation et d'installation. Il n'y aurait pas de camp ni à Calais ni à Dunkerque. Les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de l'Europe. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. C'est la fermeture des frontières qui crée aujourd'hui ce drame humain au plein cœur de l'Europe. Et si nous acceptons de laisser mourir des migrants à nos portes, demain, on nous forcera à accepter que l'on abandonne des travailleurs bien d'ici, des chômeurs bien d'ici, avec la même indifférence. Les dirigeants des grandes puissances veulent faire de ces hommes et de ces femmes des sans-patries, comme des dizaines de millions d'autres avant eux. Eh bien, il faut que les travailleurs les accueillent à bras ouverts et en fassent au plus vite des frères de classe et des frères de combat pour changer de fond en comble cette société qui est de plus en plus inhumaine. Changer la société en renversant le pouvoir économique et social de la bourgeoisie capitaliste ou accepter le cheminement vers la barbarie, voilà la question qui se pose à nous. Et elle est d'une toute autre importance que les misérables spectacles politiciens auxquels on a droit aujourd'hui. Mettre fin à la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution sont les conditions indispensables pour créer une organisation sociale nouvelle, débarrassée de l'exploitation, mais aussi de la concurrence, des crises économiques et du fonctionnement anarchique, imprévisible de l'économie. Ce sera le premier pas, mais un pas de géant, sur la voie d'une société communiste. Le mot communiste a été dénaturé, transformé en son contraire, aussi bien par les ennemis déclarés des travailleurs que par leurs faux amis. Mais il est un des mots les plus riches de signification, les plus beaux, surgit des rêves égalitaires de l'humanité depuis des temps immémoriaux, et transformé en projet conscient par les combats passés du mouvement ouvrier pour son émancipation. Il signifie tout simplement la mise en commun des richesses de la société, des moyens de les produire et de les partager. Seule cette mise en commun permettra à l'humanité de maîtriser son économie et sa vie sociale. Le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. La seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens est le prolétariat. Aujourd'hui, les travailleurs, la classe ouvrière, sont divisés, dispersés, atomisés et subissent tout le poids du capitalisme et de la crise. Il apparaît faible même pour se défendre. Et les travailleurs subissent au travers de la crise du chômage cette pression délétère du capitalisme. Mais la classe ouvrière reprendra confiance en elle, tout simplement parce que la société capitaliste ne peut pas se passer d'elle. Sans elle, sans les travailleurs, rien ne peut fonctionner, pas même la machine à profit au bénéfice de la classe capitaliste. L'issue pour laquelle nous militons peut sembler lointaine, et en même temps, elle est inscrite dans la société elle-même. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires, c'est la vie elle-même. Et c'est le moteur de l'histoire, parce que les travailleurs ne resteront pas indéfiniment l'arme au pied. Et notre conviction, c'est que le capitalisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité. Un jour, nous en tournerons la page pour en écrire